Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs du lundi au vendredi entre 18h20 et 19h sur France Culture.
Ministère de la Santé, bonjour.
Ministère de la Santé, bonjour.
D'accord.
Donc l'EPA pour ses études. Alors le plus simple pour vous.
À l'ordre du jour ce soir, coronavirus, la mondialisation réveille-t-elle les peurs ancestrales? En France, en Australie ou dans des pays limitrophes de la Chine, la brusque réaction de mise à distance, voire de racisme vis-à-vis de populations venant d'Asie, se sont multipliées ces derniers jours. À Marseille, certains n'ont pas manqué de rappeler qu'en cette année de tricentenaire de la peste, l'arrivée à proximité du grand port du sud de Français venant de Wuhan avait réveillé une peur des épidémies constamment réactivées depuis 3 siècles dans cette cité. La mondialisation des informations, des transports de marchandises et de voyageurs facilite-t-elle la multiplication des rumeurs tout autant d'ailleurs que la résolution de ce type d'épidémie par un échange d'informations beaucoup plus rapide? C'est ce que nous allons voir avec nos 3 invités, avec Florence Bretel-Establé, elle est historienne, directrice de recherche au CNRS à Paris 7 Diderot, elle est dans l'équipe Sphère et elle est spécialiste de l'histoire de la médecine chinoise moderne et contemporaine. Avec Jean-Claude Manuguera, il est virologue, directeur de la cellule intervention biologique d'urgence, le de l'Institut Pasteur. Et enfin, Guillaume Lachenal est avec nous. Il est historien des sciences et professeur à Sciences Po, chercheur au Media Lab. Et son dernier livre s'intitule « Le médecin qui voulut être roi ». C'était en 2017 aux éditions du Seuil.
Ministère de la Santé, bonjour.
Ministère de la Santé, bonjour.
D'accord.
Donc là, il part pour ses études. Alors, le plus simple pour vous, vous avez le site mis en place par le gouvernement diplomatie.gouv. Donc là, vous avez la possibilité d'avoir un état des lieux du coronavirus sur Taïwan.
N'hésitez surtout pas à nous rappeler si vous avez d'autres questions.
On vous souhaite une bonne journée, madame.
Les questions qui reviennent le plus, c'est au niveau des envois des colis. Tous les achats qui sont faits via les sites, donc les gens se posent la question, est-ce que le colis reçu est contaminé du coronavirus? La réponse est, écoutez, non.
J'ai eu un cas, celui qui nous appelait, qui disait que dans son immeuble, il y avait beaucoup de Chinois. Tant que la personne ne développe pas des symptômes, il ne peut pas vous contaminer. Donc rassurez-vous, on les rassure quand même, hein, tant qu'on est là aussi pour ça, c'est notre rôle.
Bonsoir Jean-Claude Manuguera. Vous êtes virologue, ce genre de questions, on doit vous la poser depuis maintenant un peu plus d'un mois, de façon quotidienne, voire plusieurs fois par jour.
Oui, oui, la question sur les colis et sur les marchandises qui viennent des zones d'épidémie.
Quand on sait que la Chine est l'usine du monde, comme on dit, il y a beaucoup de colis qui partent de là-bas.
On a eu ça aussi à un moment donné. À l'époque, c'était les douaniers qui avaient posé des questions au moment du SRAS, hein, le coronavirus de 2002-2003. On n'a pas d'exemple de contamination par des objets inertes de ce type. Le voyage est assez long et les virus, en fait, sont absorbés dans les surfaces, les tissus, les cartons. Et c'est pas un très bon vecteur de virus.
Guillaume Lachenal, bonsoir. Vous êtes historien des sciences, spécialiste justement de ces questions médicales et aussi des rumeurs qui les accompagnent. Cela, ça fait partie effectivement de toutes les grandes épidémies. Il y a ce qui précède et ce qui suit une épidémie, c'est-à-dire la manière dont on en parle avant qu'elle n'arrive et la manière dont on en parlera pendant qu'elle est là.
Bah, c'est vrai qu'une épidémie est toujours précédée par d'autres récits et on n'est jamais tout nu avec sa raison face à une épidémie, mais on est déjà hanté par celle qui précède et puis on est surtout hanté par la projection de ce qu'elle peut devenir. Et l'épidémie, à ce niveau-là, est une expérience très déréalisante, puisqu'on est à la fois dans les fictions, les récits, on dit c'est vraiment comme dans les films, et puis est-ce que ça va...
Si on a lu le Hussard sur le toit, et on se souvient effectivement de l'épidémie de choléra du début du 19e siècle, dans la région de Marseille et aux alentours, par exemple, et du mur de la peste, et tout cela.
Oui, alors après, en tant qu'historien, on est très sensible à essayer de repérer des différences plutôt que de parler d'universaux qui se répètent ou d'un récit qui serait toujours le même. Et il faut se souvenir, finalement, nos peurs, ou les peurs telles qu'elles se manifestent en Australie, par exemple, c'est des peurs très modernes qui sont liées à la théorie microbienne des maladies. Et cette théorie microbienne des maladies qui s'est constituée à la fin du 19e siècle a considérablement durci les formes de racisme médical en faisant justement de l'autre le porteur d'un germe contagieux. Mais ces épidémies qu'on évoque de peste, de choléra du 18e, du 19e ne sont pas des épidémies qui étaient toujours interprétées sur le plan de la contagion. Donc les peurs ne sont pas si ancestrales que ça, elles sont en fait plutôt contemporaines, ces peurs.
Et Florence Bretel-Establé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez pensé avec Frédéric Keck pour un ouvrage en commun avec d'autres chercheurs à penser les épidémies depuis la Chine, le Japon et la Corée. Ça nous décentre. Et quand on les pense depuis la Chine, le Japon et la Corée, on ne les pense pas de la même manière que quand on les pense en Europe.
Alors, on ne les pense pas forcément de la même manière, non, bien sûr. Et là, dans le cas présent, c'est vrai que la réactivation des peurs liées aux épidémies en Chine est très intéressante à étudier, je pense, dans la posture de Xi Jinping. Hein, il est difficile de pas voir dans cette gestion vraiment spectaculaire de l'épidémie du coronavirus une manœuvre aussi de légitimation politique à destination, bien sûr, d'abord avant tout du peuple chinois, celui qui est en République populaire de Chine, mais aussi celui qui est à Taïwan, celui qui est à Hong Kong, et puis aussi à destination du monde. Vous savez, la vidéo qui a permis à des milliards de personnes de suivre la construction en direct d'un hôpital a aussi permis au gouvernement Xi Jinping de révéler une capacité politique, technologique, financière qui est hors norme. Alors là, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment tout à fait nouveau ou pas? Je pense qu'on peut tout à fait situer cette posture de Xi Jinping dans une histoire beaucoup plus longue de la gestion politique des épidémies en Chine. Vous savez, dans l'histoire impériale, les épidémies, au même titre que les inondations, les sécheresses, étaient considérées comme des signaux très forts.
Du ciel,
envoyés par le ciel, que l'empereur avait perdu son mandat céleste, c'est-à-dire le mandat dont il était investi pour gouverner. Et face à ça, vous savez, même des disciples de Confucius comme Mencius, qui n'étaient vraiment pas des partisans de la révolution permanente, expliquer à un souverain qui a perdu sa légitimité politique, le peuple est en droit de se rebeller contre lui. Et du coup, les empereurs chinois dans l'histoire ne restaient pas insensibles aux épidémies. Et on peut très rapidement rappeler quelques-unes de ces initiatives. Mais déjà, dans un empire qui était aussi grand que la Chine, c'était déjà de faire remonter l'information. Donc les empereurs demandaient à ce que les bureaucrates locaux fassent remonter l'information. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'historien, on a des chronologies quand même assez étoffées d'épidémies, assez fines. Bon, bien sûr, pas aussi fortes, pas aussi bonnes que celles qui seraient données par des bureaux d'épidémiologie modernes, mais on a quand même des chronologies. Et en retour de cette remontée d'informations, la cour impériale, qui avait dans sa capitale le bureau impérial de médecine et un jardin où on plantait des substances qui entraient dans la pharmacopée chinoise, eh bien la cour impériale devait renvoyer, acheminer des médicaments. En dehors de ça, on sait aussi que les empereurs étaient aussi, on les trouve à plusieurs fois à l'initiative de grandes diffusions de connaissances médicales au XIe siècle, au XVIIIe siècle. On a des textes médicaux qui sont commandés par l'empereur, donné gratuitement dans les provinces pour être distribué. Et donc, vous voyez...
Vous voulez dire que Xi Jinping s'inscrit dans cette longue histoire qu'il connaît, forcément,
Alors, il la connaît certainement, il s'inscrit peut-être pas de façon consciente, mais je pense que quand on étudie aussi le langage qu'il a utilisé pour parler de cette épidémie, on se rend compte qu'il ne parle pas dans le vide et certainement...
La guerre contre le démon, par exemple.
Alors oui, bon, là c'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable. Tous les gens qui connaissent un peu de près ou de loin l'histoire des religions chinoises ont dû sursauter quand Xi Jinping a dit l'épidémie est un démon et on ne doit pas le laisser cacher, on ne doit pas le laisser cacher. Parce que pendant longtemps, dans l'histoire impériale chinoise, ce n'était pas une métaphore. C'est-à-dire qu'il y a une croyance qui est très ancienne, qui est alimentée par différentes traditions, qui vraiment pensait que l'épidémie était aussi envoyée par le grand empereur de Jade, qui avait sous lui une bureaucratie céleste qui comptait un ministère des épidémies. Et dans ce ministère des épidémies, le président était chaque année envoyé dans la communauté des vivants pour faire le bilan des bonnes actions et des mauvaises actions. Il remontait dans son bureau, il indiquait à l'empereur de Jade, et puis l'empereur de Jade mesurer, enfin faisait la balance des bonnes actions, des mauvaises actions, et en fonction de ça, envoyait des épidémies par le biais de démons épidémiques. Alors cette croyance, elle a survécu au moins jusque dans les années 1940, et elle était à l'origine de processions collectives très régulières, très où bien sûr on sortait tous les dieux du panthéon chinois pour comme acte de rédemption, si vous voulez, mais aussi on faisait passer ces processions avec des pétards, des gongs, de la musique pour effrayer les démons, pour les chasser, pour les faire repartir. Et après, comme les Chinois étaient polis, ils faisaient brûler ou ils mettaient sur l'eau un bateau en papier qui était destiné à raccompagner dans la bureaucratie céleste les démons épidémiques. Donc là, quand Xi Jinping parle de l'épidémie est un démon, il parle aussi en tant que père du peuple.
Ça, c'est très intéressant parce qu'on voit bien que Jean-Claude Maïdu-Guérin, quand on est virologue comme vous, il faut s'intéresser évidemment à la question des virus tels qu'on les connaît aujourd'hui, tels qu'on connaît leur propagation, mais il faut aussi avoir cette vision ancienne, pourrait-on dire, de la manière dont, dans un imaginaire collectif d'un pays ou d'un autre, ou des imaginaires collectifs mondialisés, eh bien, circulent des vieilles images qui, peut-être, font écran à votre propre travail de virologue.
Alors, l'histoire de la microbiologie est passée en scène, elle vient d'être rappelée fin de deuxième partie du 19e siècle. L'imputabilité des maladies infectieuses à des micro-organismes qui préexistaient date de l'époque pastorienne. Bon, alors ceci dit, les maladies existaient avant, on a simplement découvert les agents pathogènes à ce moment-là. Dans les noms des maladies, on a cette idée de quelque chose qui se répand et dont on ne sait pas très bien ce que c'est. Le mot de grippe en italien, c'est influenza, c'est l'influence. C'était alors que le mot grippe vient plutôt de l'allemand, où là c'est une définition beaucoup plus clinique de la maladie qui a un début brutal. Donc on a pour certaines maladies une perception qui dépend aussi
d'une histoire ancienne,
de l'histoire, de la langue, de l'endroit géographique d'où on vient. Alors pour les virus, et pour les bactéries, c'est des êtres qu'on ne voit pas. Et donc, le danger qu'on ne voit pas est un danger qui inquiète beaucoup.
Et on peut dire aussi que, il y a un apprentissage de ces épidémies. On sait depuis, effectivement, Pasteur, comment elles se transmettent. On sait comment peut-être les arrêter de manière beaucoup plus efficace qu'auparavant. On sait aussi que une épidémie va servir de modèle ou de contre-modèle pour une épidémie qui vient. Ce que disait à l'instant Florence Bretel-Establé à propos de la manière dont les empereurs géraient les épidémies en Chine, on peut dire que là, l'empereur Xi Jinping la gère de manière différente parce qu'il y a eu en 2002-2003 l'épidémie du SRAS et que, par exemple, retenir les informations n'est peut-être pas la meilleure manière pour pouvoir gérer une épidémie, en l'occurrence.
Alors effectivement, des erreurs majeures ont été commises par les autorités chinoises locales et nationales en 2002-2003, où il y a eu un déni qui a duré assez longtemps, mais ce genre de déni a été vu dans d'autres épidémies, au début d'Ebola aussi pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Et très très vite, les Chinois ont compris que c'était pas la bonne méthode et que quand on met quelque chose sous le tapis, ça finit par ressortir. Il y a quand même l'exemple.
Donc il a fallu à peine quoi, 15 jours pour que là
Là, ça a été très rapide pour l'identification du virus. Alors entre-temps, les progrès techniques, technologiques ont été tellement énorme qu'on a pu avoir non seulement l'identification du virus, mais aussi le décryptage de son patrimoine héréditaire complet en quelques jours, qui a été partagé dans les banques de données de séquences génétiques. Donc là, il y a une attitude qui a été complètement différente, qui s'est quand même inspirée du Vietnam, parce que lorsque l'alerte est partie du SRAS en mars 2003, les autorités vietnamiennes ont réagi très très vite et ont confiné les gens dans l'hôpital François Danol, là où était partie l'alerte mondiale. Et du coup, le virus ne s'est pas propagé dans la ville et s'est pas propagé en dehors de l'hôpital. Et ça a été le premier pays à s'en débarrasser. Et ça a été une action rapide des autorités vietnamiennes qui ont eu un effet assez efficace.
Je peux vous proposer la déclaration qu'a faite il y a maintenant deux jours, c'était lundi, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. C'était à propos justement de cette nouvelle épidémie liée au coronavirus.
Nous avons travaillé avec Google pour que les personnes qui recherchent des informations sur le coronavirus voient apparaître d'abord celles de l'OMS. Twitter, Facebook, Tencent et TikTok ont aussi pris des mesures pour limiter la désinformation sur les réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le coronavirus.
Voilà des propos recueillis par Jérémy Lanche, le correspondant de Radio France à Genève. Donc, c'était la déclaration du directeur général de l'OMS. Nous sommes avec vous, Guillaume Lachenal. Vous êtes historien des sciences et vous êtes spécialisé dans ces questions, effectivement, de rumeurs ou de peurs autour des épidémies. On peut dire que là, il y a la mise en spectacle aussi qui est nouvelle. C'est-à-dire un directeur général de l'OMS qui fait de l'humour à propos d'une épidémie qui se déclenche. C'est assez rare.
Oui, ben c'est l'empereur Tedros qui doit trouver la bonne manière de réagir et l'OMS est aussi hanté par la grippe de H1N1 en 2009 où l'OMS avait plutôt surréagi, puis hanté par Ebola en Afrique de l'Ouest 2014-2015 où l'OMS avait sous-réagi, avait tardé à déclarer l'urgence internationale. En RDC, ça a refait un peu la même chose.
En République démocratique du Congo.
L'OMS marche sur des œufs et cette fois, pour la première fois, il est aussi face à un État extrêmement fort et à une communauté scientifique à la fois forte. Et ce qui est fascinant dans cette épidémie, c'est l'autonomie aussi de la communauté scientifique qui a très tôt posté les virus, les séquences virales en accès libre, avec une science qui se fait presque en temps réel. On vient de voir, et ça a choqué pas mal de monde, une étude publiée dans le Lancet ou le New England Journal of Medicine sur la transmission par des patients asymptomatiques du virus en Allemagne. Et là, on vient d'apprendre qu'en fait, cette étude n'avait pas été du tout assez bien menée. Et en fait, personne n'avait interrogé le fameux cas index de cette étude allemande. Ce qui montre que désinformation, mésinformation, ça concerne aussi
la communauté scientifique.
Et avec ces virus qui sont postés en accès libre, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est une vraie utopie de la science ouverte, mais qui porte un peu sa propre dystopie, puisqu'on voit aussi des virologues de salon qui ont les outils informatiques pour analyser les séquences et qui sortent sur des sites de partage d'articles en pré-publication, qui sortent des théories qui deviennent des théories du complot, que le coronavirus a recombiné avec le VIH ou avec un poisson ou avec un serpent. Et ensuite, bon, c'est pour montrer que les choses sont pas aussi simples que les scientifiques savent et le peuple panique, mais la peur et les hésitations sont des deux côtés.
On n'est pas au temps où c'était il y a quelques années, hein, c'était il n'y a pas longtemps, où Breitbart News de Steve Bannon, par exemple, utilisait l'épidémie d'Ebola et commençait à raconter à peu près n'importe quoi sur cette épidémie d'Ebola. Jean-Claude Manuguera.
Juste une précision, parce que sinon ça va effrayer. On a beaucoup parlé de ça. Quelquefois, nous, on a des questions. Les virus ne sont pas échangés. Ce n'est pas les virus qui sont échangés sur...
Les séquences.
Parce que
Ça. On ne peut pas échanger des virus sur l'informatique. Hein,
non.
Sauf les virus informatiques.
Des virus informatiques, évidemment, oui. Donc, la question était...
Non, la question, c'est on n'est plus à quelques années près, après l'usage par Steve Bannon, Breitbart News, de ce qui se passe en Ebola. Là, effectivement, on peut se tromper, y compris dans des publications, parce qu'on va trop vite, d'une certaine façon, Jean-Claude de Manuguera.
Ça date quand même de quelques années maintenant. Encore pour revenir sur le SRAS, on a eu pendant longtemps des identifications qui étaient erronées. De ce virus, on a d'abord cru que c'était un pneumovirus, donc ça a été publié. Ensuite, plus tard, il a été publié dans une revue prestigieuse, qui est Science, que le réservoir l'animal d'origine était la civette palmiste masquée de l'Himalaya. Et en fait, c'était une espèce importante, mais une espèce intermédiaire.
Donc, et le réservoir était où, justement?
La source était une espèce de chauve-souris, et la civette était l'espèce intermédiaire qui a fait le maillon entre l'animal sauvage et l'homme.
C'est bien là où on voit effectivement qu'il y a accumulation de savoir, puisque dès que se déclenche cette nouvelle épidémie de coronavirus, on a des photos qui sont partout, de soupe à la chauve-souris. On dit voilà, c'est la chauve-souris qui est le réservoir de ce nouveau virus, par exemple.
Je me souviens en août 2002,
Il y avait une grosse épidémie à Madagascar qui avait été amplifiée d'ailleurs par les troubles politiques de l'époque et un hiver froid, donc c'était au mois d'août. Et à l'époque, sur un réseau d'échanges qui existait déjà et qui n'était pas très bien modéré à l'époque, qui est Promed, on avait lu un post d'une américaine qui disait qu'en fait c'était la grippe en fait, mais que pour elle c'était probablement le virus Nipah qui avait été découvert peu avant à Singapour et en Malaisie, parce que elle avait vu des chauves-souris, beaucoup de chauves-souris dans un arbre, et qu'on savait que Nipah venait des chauves-souris. Donc depuis un petit moment, on a des interprétations erronées, des raccourcis qui mettent un petit peu de temps avant de pouvoir être démentis formellement.
Et ça facilite ou ça rend plus difficile le travail qui est le vôtre de virologue ?
Ben, c'est surtout lorsqu'on donne un résultat qui paraît banal. C'est difficile de le faire accepter quand on dit ben non, c'est la grippe, mais dans les circonstances actuelles, effectivement, les sévérités plus grandes, il y a plus de décès, c'était plus difficile à faire croire et les gens préféraient que ce soit quelque chose d'extraordinaire plutôt que quelque chose de banal, malheureusement.
18h41 sur France Culture, vous écoutez le temps du débat autour du coronavirus et de la mondialisation qui réveille peut-être les peurs ancestrales, Virus de Björk.
Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Un temps du débat consacré à la crise du coronavirus. Peut-être avec vous, Florence Bretel-Establé, se poser la question de savoir pourquoi la Chine est dans l'imaginaire commun. On a vu les titres de certains journaux français qui parlaient de péril jaune, etc. Et cet endroit d'où naîtraient justement des épidémies. Est-ce que vous avez fait le rapport, en travaillant sur penser les épidémies depuis la Chine, le Japon et le Corée, en tant qu'historienne, entre ce regard porté sur la Chine en tant qu'immense pays et qui peut-être justement aurait en son sein des maladies qui se répandraient dans le reste du monde, dans un imaginaire commun, et puis la réalité des faits?
Alors, je dirais cet imaginaire qu'il y a des épidémies chinoises qui sont, enfin des épidémies qui seraient particulièrement spécifiquement chinoises ou en provenance de la Chine. Alors, je ne sais pas exactement de quand ça date. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça date au moins de la fin du 19e siècle, lorsque une grande épidémie de peste bubonique se déclare dans le port de Canton et de Hong Kong, et va là susciter une peur, certainement une des dernières peurs les plus importantes vis-à-vis des épidémies. Bon, 1894.
La presse de grande diffusion déjà.
Grande diffusion, il y a au moins 100 000 morts.
L'information qui court le monde.
Voilà, il y a 100 000 morts au moins entre Canton et Hong Kong. Et puis, il se trouve que cette épidémie, elle avait été observée. Enfin, le début de l'épidémie avait été observé dès la fin des années 80 par un consul qui était dans la province du Yunnan et qui montrait comment cette épidémie de peste bubonique suivait les voies commerciales et finalement on trouvait des épidémies de plus en plus rapprochées de Canton et Hong Kong. Et à ce moment-là, il y a effectivement une peur très très importante de la part des autorités coloniales françaises qui vont envoyer, de fait, à partir de 1898, des médecins français, des médecins militaires français, pour surveiller l'état de ces épidémies qu'on appelle alors chinoises, des épidémies de peste bubonique, pour que surtout elles n'entrent pas dans la colonie indochinoise qui est juste à côté, d'autant que les autorités coloniales ont signé la construction d'un chemin de fer qui relie Hanoï à Kunming. Donc, des médecins militaires sont envoyés dans cette partie de la Chine avec la mission, alors on n'a pas la technologie d'aujourd'hui naturellement, mais avec la mission de renseigner le plus précisément possible la marge des épidémies, la contamination des ports. Alors, à cette époque-là, c'est sous le par le moyen du télégramme. Donc tous les en cas de lorsque une épidémie sévissait, les médecins français donc qui vont ensuite rester une trentaine, une quarantaine d'années en Chine, mais ces médecins devaient donc envoyer des télégrammes tous les 10 jours. Aux autorités coloniales de l'Indochine et aussi au ministère des Affaires étrangères en France, parce que la peur que les épidémies entrent dans la colonie indochinoise était doublée aussi de la peur que cette épidémie aussi n'entre en métropole.
Bien sûr. Voilà. Effectivement, avec cette mondialisation, cette première mondialisation dont on a parlé, Suzanne Berger a parlé dans un livre il y a quelques années, cette première mondialisation de la fin du 19e siècle avec les grandes expositions internationales en particulier. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que votre collègue Frédéric Keck, qui a travaillé avec vous, Florence Bretel-Establé, dit dans des articles récents, en particulier au Figaro, Jean-Claude Manu-Guérin, il dit, en fait, ça fait 20 ans que les autorités sanitaires internationales se préparent, dit-il, à l'émergence d'un virus qui viendrait justement de réservoirs animaux, notamment dans le centre de la Chine. Est-ce que c'est vrai, ça, qu'effectivement, vous imaginiez que peut-être, à un moment ou à un autre, une nouvelle épidémie pourrait démarrer du centre de la Chine ?
On n'a pas besoin de faire preuve de beaucoup d'imagination, parce qu'on a des exemples passés qui se répètent. Les virus ne viennent pas forcément seulement de la Chine. Les facteurs d'émergence existent partout. Alors en Chine, peut-être plus qu'ailleurs.
Pourquoi ?
Le premier facteur d'émergence, c'est en fait la collision entre notre espèce et des espèces qu'on ne rencontre jamais normalement. Et c'est souvent lié au changement d'usage des terres. Et ce qui fait que directement ou indirectement, nous entrons en contact avec des espèces.
Vous voulez dire, c'est les écosystèmes qui sont changés
et... Oui, c'est la déforestation, c'est le changement d'usage des terres, rizières ou pas, enfin, et qui fait que, quelquefois, soit les animaux se rapprochent de nous, soit nous nous rapprochons des animaux, d'espèces sauvages qui hébergent leur virus, avec qui ces espèces vivent en bon terme, dans un équilibre depuis longtemps, et tout d'un coup, cet hôte ce virus passe chez un autre hôte, et là commence à causer des dégâts. C'est ce qu'on voit, par exemple, ce qu'on constate, par exemple, pour Ebola. Alors, en Chine, c'est le problème étant encore plus accentué, c'est que non seulement on a une certaine biodiversité, c'est un grand pays avec beaucoup d'espèces d'animaux sauvages, une grosse diversité, donc beaucoup de diversité de virus, et puis on a des facteurs très importants, c'est les facteurs démographiques d'animaux domestiques et les facteurs démographiques humains qui d'ailleurs vont de pair, et l'introduction dans des populations denses favorise les transmissions de virus qui au départ ne sont pas très efficaces et qui au fur et à mesure de l'adaptation peuvent devenir efficaces, et c'est ces différents ingrédients effectivement qu'on trouve particulièrement en Chine.
Guillaume Lachenal, vous qui travaillez au Media Lab de Sciences Po et qui êtes historien des sciences, on peut se demander pourquoi un directeur de l'OMS, comme ça a été le cas de ce qu'on a entendu tout à l'heure, commence à avertir les grandes plateformes, Facebook, Twitter, il a dit, TikTok, évidemment, qui est une plateforme qui vient de Chine, Tencent ou d'autres endroits, qui les avertit en disant « il faut que vous travaillez avec nous, justement, pour éviter que les rumeurs ne se propagent ».
Je pense qu'il identifie quelque chose qui est un sujet de préoccupation à l'échelle mondiale, qui est la circulation de ces fausses nouvelles. La question, c'est quel est l'effet de ces échanges d'informations. Il y a aussi beaucoup de blagues, par exemple, qui circulent, qui sont beaucoup plus anodines. Et c'est quelque chose qui est difficile à mesurer.
Quand on est directeur de l'OMS et qu'on fait une blague soi-même à la tribune, alors qu'on annonce donc un danger majeur pour l'humanité, on se dit, on joue sur les deux tableaux.
C'est peut-être l'antidote à la peur, et il a certainement raison de le faire. Je crois que le mot que Jean-Claude Manu-Guérin a prononcé, qui est banalité, je crois que c'est important. Il faut arriver à penser la banalité des épidémies, et quand on arrive à ça, on a gagné.
Et puis, il y a aussi, effectivement, en parallèle, sur ces réseaux sociaux, le hashtag « Je ne suis pas un virus », par exemple, qui est utilisé depuis quelques jours par populations qui vivent en France et qui sont d'origine asiatique, parce que effectivement il y a toutes ces discours, ces discussions, ces façons de se comporter qui, semble-t-il, sont des façons délicates, et en particulier qui prône un certain racisme vis-à-vis des populations d'origine asiatique, comme on peut l'entendre dans le reportage de Lauriane Delanoë de France Info auprès d'un propriétaire de restaurant vietnamien et d'une habitante du 13e arrondissement de Paris.
Ça a été assez radical, quand les premiers cas français ont été annoncés. Du jour au lendemain, on a perdu la moitié de notre clientèle. J'ai entendu des réactions devant le restaurant de passants qui disaient qu'ils voulaient pas manger là parce qu'ils risquaient d'attraper un microbe en mangeant au milieu des Asiatiques dans un restaurant asiatique, quoi. On essaye de rassurer nos clients, ceux qui veulent bien venir.
Ça va trop loin. Arrêtez, parce que là, ça fait peur et ça fait mal. Ça, les bêtises, on peut pas guérir. Vous voyez, ça, ça propage encore plus vite que les virus.
J'ai moi-même deux enfants qui sont eurasiens, donc, qui ont fini par dire qu'ils étaient d'origine libanaise pour qu'on les laisse tranquilles à l'école. Il y a des remarques, il y a des moqueries, des petites humiliations qui, comme ça, sont pas grand-chose, surtout venant d'enfants, mais qui, au final, finissent quand même par blesser.
Et il y aurait peut-être aussi un effet collatéral, pourrait-on dire, de ce virus pour la Chine elle-même. Florence Bretel-Establé, dans un bon reportage et un bon article de La Croix, Dorian Malovic, il y a deux jours, disait que, eh bien, vous voyez, il y avait des blogueurs chinois qui commençaient à parler, qui disaient le coronavirus est la maladie de l'autocratie chinoise, ou qui pouvaient dire, par exemple, nous avons sacrifié tous nos droits individuels afin que le régime nous protège et nous apporte le bien-être. Mais le gouvernement n'a toujours pas pris bien soin de nous, en l'occurrence, dans ces questions-là. On peut se dire que ce mandat du ciel, qui est le mandat de l'empereur dont vous parliez tout à l'heure, eh bien, c'est aussi un risque pour le Xi Jinping aujourd'hui.
Mais l'épidémie, aujourd'hui comme hier, était vraiment une crainte. Parce que elle était le signe, voilà, de perte de légitimité politique. Et je pense que, je le répète un petit peu, mais dans la gestion de Xi Jinping de cette crise, il y a vraiment la volonté de montrer quand même une gestion,
une maîtrise
qui est inégalée. Alors bien sûr qu'il se distingue beaucoup de la manière dont l'épidémie de SRAS a été gérée, mais la volonté de parler à son peuple et de montrer, vous voyez, on est capable en 10 jours de mettre les moyens qu'il faut pour soulager les hôpitaux qui sont submergés par l'afflux de patients. Et je pense qu'il y a vraiment une volonté, voilà,
de maîtriser
et de redorer effectivement une légitimité politique qui a été malmenée dans les manifestations de Hong Kong dans les mois de novembre et décembre.
Jean-Claude Manouguerin, qu'est-ce que on peut dire par exemple de cette idée que la quarantaine serait une bonne solution, parce que j'ai cru comprendre que cette idée qu'on avait traditionnelle là aussi dans raconter de famille en famille une maladie, un virus, quelle que soit la façon dont ça se propage, il faut mettre les gens en quarantaine. C'est visiblement pas ce que vous préconisez ou ce que préconisent les virologues qui connaissent bien ce type de virus.
Ça dépend du nombre de personnes qu'on doit mettre en quarantaine, parce que très très vite on peut être débordé. Lorsque les nombres sont limités, on arrive à contrôler. La difficulté de la quarantaine, c'est que alors ce qui est très efficace, en tous les cas dans certains cas, c'est l'isolement des patients. Là, la quarantaine s'applique aux personnes qui ne sont pas malades. Et donc, les personnes qui ne sont pas malades et qui sont susceptibles de pouvoir l'être...
Donc, vous voulez dire isoler un cas avéré, c'est ce qu'on fait.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc, on fait une chambre individuelle, on se débrouille.
Tout à fait.
Voilà.
Pour toutes les maladies infectieuses, c'est comme ça qu'on doit faire.
Voilà.
Maintenant, le problème, c'est que si vous mettez en quarantaine, c'est des personnes qui ne sont pas malades, par définition. Et donc, des personnes qui sont pas malades, qui sont susceptibles de l'être, et ben vous en avez beaucoup. La question se pose, on va mettre en quarantaine ces personnes qui viennent de Wuhan, qui ont été rapatriées, mais quid des autres qui sont déjà arrivés, qui vont arriver par d'autres voies, celles-là ne sont pas mises en quarantaine. Donc il y a un aspect psychologique, mais il y a un accès aussi qui peut être efficace lorsque le volume est limité, parce que ça demande beaucoup de moyens, et surtout, la quarantaine fonctionne si s'il n'y a pas de faille, s'il n'y a pas de trou dans la raquette. Et le problème, c'est que si on a beaucoup de monde et si ça dure trop longtemps, eh bien, à un moment, il y a des erreurs qui font que le virus arrive à s'échapper.
Ça veut dire que ces ambassades qui ne veulent pas délivrer de visa aux Chinois, ou simplement cette Australie qui se dit on ne va pas laisser entrer des Chinois sur notre île, ou encore la mise en quarantaine à l'université de Derby pour tous les étudiants chinois qui, en Angleterre, venaient à Derby pour pouvoir étudier, tout cela.
Mais il faut que la quarantaine, pour être efficace, elle demande vraiment à être extrêmement stricte. Parce que la moindre faille fait qu'elle ne marche pas. Donc ça dépend encore une fois du volume, des installations et du personnel qu'on peut y mettre. Parce que ça demande beaucoup de personnel pour s'occuper de ces gens sans que le personnel ne se contamine et fasse sortir le virus.
Et cela, Guillaume Lachal, on voit bien qu'on est entre une vision scientifique, celle qui est défendue par Jean-Claude Manuguera, et puis des imaginaires
on est aussi
de la maladie.
Dans des rituels, hein, c'est des rituels de prévention. Là encore, c'est difficile de réagir à une épidémie sans rituel. Les anthropologues savent bien que nos sociétés aussi ont des rituels. Et ces rituels de quarantaine ou le port du masque généralisé dans toute l'Asie rappellent qu'on a des réponses qui sont des rituels de prévention, mais qu'on peut pas ne pas faire.
Oui, c'est cela. C'est-à-dire qu'on est on est contraint de les faire tout en sachant peut-être que ça ne fonctionne pas. Jean-Claude Manuguera.
Juste une chose, dans la philosophie du nouveau règlement sanitaire international, qui est 2005, qui commence à être appliqué en 2009, l'idée de l'efficacité, c'est le confinement à la source. C'est-à-dire qu'on va mettre le paquet là où il y a les épidémies pour que ces épidémies n'essaiment pas partout.
Et vous dire, c'est demande... 52 millions de Chinois dont on se dit dans la province de Wuhan, ça ne sort pas.
C'est la philosophie actuelle, c'est du nouveau règlement sanitaire international, c'est le confinement à la source plutôt que de diluer dans 193 pays les mesures pour éviter que le virus entre. C'est plus facile d'éviter qu'il sorte que qu'il n'entre dans 193 pays. Et ça, par exemple, c'est ce qui était fait pour Ebola. Par exemple, à Conakry, il y avait un screening des patients avant de prendre l'avion.
En Guinée.
Et pas en arrivant.
Et cela, effectivement, ça marche ou ça ne marche pas, puisqu'on a vu des cas qui se déplaçaient, par exemple, dans la province de Wenzhou. Province de Wenzhou, qui d'ailleurs a beaucoup de rapports historiques avec la France depuis très longtemps, puisque c'est une des provinces qui a donné depuis le plus longtemps une immigration chinoise en France. Florence Bretel Establé, vous pensez que vous pouvez inscrire, justement, en tant qu'historienne, cette histoire à la fois dans une histoire européenne ou mondialisée des épidémies et dans une histoire chinoise, c'est-à-dire faire la passerelle entre les deux, en tant qu'historienne, justement, utiliser votre connaissance de ces épidémies telles qu'elles se sont développées en Chine et telles qu'elles ont été pensées dans l'univers chinois avec la mondialisation et d'autres univers et d'autres imaginaires qui sont les nôtres, par exemple.
Question difficile. Hein.
vous y réfléchirez avec voilà. Frédéric Keck pour nouveau travail en commun.
Juste pour ajouter à la question des quarantaines, parce que c'était quand même quelque chose qui était précisément mis en place à la fin du 19e siècle contre la peste bubonique, afin qu'elle s'échappe de la Chine du Sud. C'est qu'aussi les quarantaines, et on voit encore aussi aujourd'hui, elles posent de gros problèmes économiques et elles sont aussi souvent peu respectées parce que il y a des enjeux économiques et des intérêts économiques qui sont contraires à ces quarantaines.
Guillaume Lachenal.
Oui, non, et c'est ce qui est fascinant dans la réponse chinoise et même mondiale à l'épidémie, c'est avec quelle rapidité on a déclaré un état d'exception économique en interrompant les voyages à très grande échelle. Et ça, c'est...
Avec des Chinois qui protestent d'ailleurs en disant
oui,
vous êtes en train de nous exclure de la communauté internationale.
Une inquiétude sur les marchés, une inquiétude dans les secteurs logistiques, etc. Le problème des colis, c'est pas qu'ils vont être contaminés, mais c'est peut-être qu'ils vont plus arriver, que les chaînes d'approvisionnement vont être rompues, peut-être dans la pharmacie, peut-être dans l'automobile. Et ça, c'est absolument fascinant et assez inédit à cette échelle.
Merci à tous les trois, en tous les cas. Merci à vous, Jean-Claude de Manuguera, et retournez à vos études de virologue pour pouvoir en savoir encore un peu plus sur cette épidémie de coronavirus. Merci à vous, Florence Bleuretel Establé. Je rappelle que votre dernier livre en commun est en anglais, publié chez Springer, Making Sense of Health Disease and the Environment. Oh là là, quel anglais formidable! In Cross-Cultural History. Et puis, on peut lire de votre part, Guillaume Lachenal, Le médecin qui voulut être roi, c'est en 2017 aux éditions du Seuil. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier et Manon Prissé. À la technique aujourd'hui, Sylvain Latu, à la réalisation, Assia Ralid. Et dans un peu plus de 3 minutes, avec vous, Arnaud Laporte, eh bien, ça sera l'heure de la dispute.
La dispute art plastique ce soir. Je crois que vous n'avez pas lu le titre en anglais tout à fait en entier.
Mais non, Emmanuel. Je veux dire, The Arabic Islamic World, China, Europe and North America.
C'est un bonheur. Donc demain, un temps du débat, Time of a Debate, entièrement en anglais.
Entièrement en anglais, autour de la question de la race. Peut-on utiliser ce terme de race? En quoi est-il utile pour comprendre le monde d'aujourd'hui alors qu'il a été supprimé de notre constitution?